Vous êtes toujours avec l'émission littérature. Nous parlons de Lost avec Pacôme Thielman pour Les Mêmes Yeux que Lost. Merci beaucoup, Pacôme Thielman, d'être avec nous en direct par téléphone.
Merci.
Alors, pour commencer,
bonjour,
bien entendu. Mon postulat sur votre livre, c'est que ce n'est pas un livre sur Lost, mais un livre sur la fabrication de la fiction ou sur comment fabriquer une fiction ambitieuse. Je vous cite. La polarité centrale de Lost est celle de la confiance et la tromperie. Et cette polarité est le corollaire du conflit entre la fiction et ses règles, et le monde réel et son anomie. En représentant ainsi la genèse de son récit, Lost fait se recouper les conditions de réalisation de toute fiction et les lois supramondaines de la métaphysique traditionnelle. Ma question, c'est que voulez-vous découvrir sur Lost en écrivant ce livre? Quand vous avez l'idée d'écrire ce livre, avez-vous un objectif à découvrir dans Lost?
Bon, dans un premier temps, j'ai écrit ce livre aussi parce que j'étais en deuil. C'est-à-dire que, de toute façon, ça a monté tout le long de la sixième saison. Je sentais que les personnages allaient me quitter, que la fiction allait cesser, et que j'allais me retrouver tout seul et perdu. Et donc, j'ai commencé à écrire le texte pour pouvoir retenir encore un peu les personnages de Lost auprès de moi et retenir surtout le modus operandi de la série, son principe narratif, sa manière de rentrer dans l'imaginaire et de rentrer surtout dans une approche, dans une perception de l'existence. Donc, mon premier enjeu, c'était de garder Lost. Et de garder Lost pour pouvoir enfin me l'approprier, dans le sens où une fiction présente un visage différent pour chaque personne. Que ce soit un grand roman, que ce soit un grand film, surtout si c'est un grand film ou si c'est un grand roman, ou si c'est une grande série, ou si c'est une grande bande dessinée. Évidemment, si c'est des mauvais romans, ils présentent très peu de visages. Un ou deux maximum. Un romancier moyen va réussir à faire, je sais pas quoi, un plan à trois coups, quoi, ou je sais pas, vous voyez. Tandis que une très grande œuvre, elle fonctionne de telle sorte qu'elle présente un kaléidoscope de possibilités, et que chaque personne peut trouver son chemin à l'intérieur. Donc je voulais pénétrer à mon tour dans Lost, comme dans un miroir, et aller chercher dedans ce qui était propre à l'expérience singulière que j'avais eue de spectateur. Si elle recoupe celle d'autres spectateurs, alors à son tour elle a une certaine valeur, ce qui n'est pas sûr. Mais le lecteur qui lira le livre pourra répondre si c'est le Lost qu'il a vu ou si ce Lost qu'il n'a pas vu recoupe d'une façon ou d'une autre celui qu'il a vu.
Alors vous parlez d'un kaléidoscope de possibilités. Dans votre livre, vous dénouez bien entendu le tissage de liens cachés de Lost, notamment à partir de la littérature ou de la mythologie, mais aussi des grands textes spirituels. Alors on peut commencer à détricoter à partir de la littérature. Et là, vous convoquez la figure d'Henry James. Vous dites que les deux scénaristes, Damon Lindelof et Carlton Cuse, que leur réinvention systématique et obsessionnelle des techniques narratives par eux est analogue à celle provoquée en son temps par Henry James dans l'art du roman. Et là, vous parlez de l'image dans le tapis qu'Henry James a écrit en 1896.
L'image dans le tapis, ce qui est notable, ce qui est troublant par rapport à ce roman, bien évidemment, c'est que c'est un roman sur l'art romanesque et un roman, en fait, sur un lecteur. Un lecteur pas forcément, d'ailleurs, aussi mauvais que ça, mais qui cherche désespérément à comprendre le secret qui est dans les romans du personnage de romancier qui s'appelle Hugues Verrecker, le narrateur, lui, anonyme. Donc ce narrateur anonyme, qui est une sorte de critique littéraire un peu à la 6-4-2, quoi, un critique littéraire improvisé, doit fournir rapidement l'ébauche d'une analyse, s'y prend très mal, et le romancier injecte en lui le doute, en lui parlant de la figure cachée qui traverse l'ensemble de ses romans. Et ça jette le narrateur dans une enquête folle où interviennent beaucoup d'autres personnages qui, eux, certains en tout cas, trouvent la figure elle-même, meurent ou refusent de lui dire, de la lui révéler. Il se retrouve à la fin. Bon, je dévoile la fin pour les auditeurs.
Oui, allez-y.
Pas grave, hein, je le fais dans mon essai de toute façon. Donc je gâche complètement le plaisir de lire ce texte par avance. à la fin, nous n'avons pas la solution. Par contre, on a tout un ensemble de métaphores, d'images, de signes qui permettent de recouper, on va dire, une figure. Cette figure-là, il y a le terme d'image dans le tapis, il y a le tissage des perles, il y a un temple en Inde, il y a également le bond de la bête qui renvoie à La bête dans la jungle, un autre roman d'Henry James. Et donc, on a, comme si on avait une explication qui apparaissait invisiblement, pas directement, mais qui apparaissait à peut-être, si vous voulez, un lecteur, ou deux lecteurs, ou trois lecteurs. C'est comme si là, le sens du livre ne devait jamais être donné, mais devait être découvert dans l'intériorité du lecteur. Et donc cette espèce de rapport extrêmement bizarre, quasi télépathique, que crée Henry James avec son lecteur, qui doit lui faire une confiance aveugle pour croire que dans ce roman sera bien contenue la réponse à sa solution, mais qui est une réponse indirecte, une réponse qui peut s'apparenter en tout cas à une illusion de réponse ou à une hallucination. Ce principe-là, qui est un principe passionnantissime, on peut retrouver des équivalents aussi dans le cinéma. Certains films d'Antonioni fonctionnent comme ça, avec une absence de réponse directe, mais des possibilités d'interprétation de ce qui s'est passé, comme dans L'Aventura, dans Blow Up. Et ben dans Lost, ils vont s'y prendre à leur manière, d'une façon totalement nouvelle, pour recréer ce type de relation à leurs spectateurs. Donc eux, ils vont créer un système narratif extrêmement complexe, à base de flashbacks, des flashbacks qui vont se transformer en flash-forward, qui vont basculer en voyage dans le temps et qui vont s'achever en flash-sideways. Mais tout ce système très complexe de narration est là pour faire que le spectateur qui regarde Lost a l'impression que la série ne révèle ses secrets qu'à lui et à lui seul. Donc, cela étant redoublé par le fait que, comme pour un certain nombre de romans notoirement obscurs, les lecteurs mécontents disent « j'ai rien compris » ou « il n'y avait rien à comprendre », les spectateurs de Lost vont dire « bon, il n'y avait rien à comprendre » ou « j'ai voulu des réponses, ils ne m'en ont pas donné, c'est des cons, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient » ou « ils ont improvisé » ou « ils faisaient semblant de savoir ce qu'ils racontaient, mais ils n'en savaient rien. » Ils naviguent à vue, enfin bref, toutes les formes péjoratives que vous voulez peuvent être utilisés pour définir le travail des scénaristes. Il se trouve que pour certains spectateurs, la série a donné toutes ses clés ou le maximum d'expériences fictionnelles possibles, mais d'une façon qui était également quasi télépathique.
Alors, on va revenir sur cette notion de réception par le téléspectateur. Je voudrais revenir toujours à votre analogie avec l'image dans le tapis d'Henry James, parce que une quinzaine de pages plus loin, vous allez plus loin, vous enfoncez le clou, vous dites que, comme l'image dans le tapis, Lost est une fiction sur le rôle de la fiction de notre vie.
Oui.
Ça, c'est un concept que vous développez. Lost est une fiction, soit, sur le rôle de la fiction de notre vie.
Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est une fiction qui est elle-même tissée de personnages qui ont à réagir par rapport à des fictions. Comme dans l'image dans le tapis est une fiction sur le rôle de la fiction dans la vie du narrateur et le rôle de la fiction dans la vie de tous les gens qui entourent ce romancier Hugues Vérecœur, voire une fiction sur le rôle de la fiction dans la vie d'Henry James, puisque c'est un récit qui est inspiré d'un récit de son ami Constance Fenimore morte, mais dont il avait retrouvé des esquisses, des notes, dont il s'était inspiré aussi invisiblement en détournant finalement le récit qu'elle avait elle-même produit pour parler de l'effet de ce récit sur sa propre vie. Dans Lost, on a des personnages qui sont toujours obligés de faire confiance à quelqu'un qui leur raconte une histoire sur l'île ou une histoire sur eux ou une histoire sur ce que c'est que la vie. Et par rapport à ça, on voit les répercussions de la confiance qu'ils auront dû mettre dans cette personne sur leur propre existence. C'est en particulier le cas du personnage de John Locke, qui est un personnage qui est souvent défini comme un homme de foi, et qui sans cesse fait confiance à d'autres personnes. Fait confiance à son père en particulier, qui est un arnaqueur, fait confiance à Ben, fait confiance finalement à à l'homme en noir qui va se substituer à lui, et l'homme sans nom. Et par rapport à ça, le partage difficile entre la foi et la tromperie fait toute la saveur de l'expérience de Lost. C'est-à-dire que c'est toujours cette question-là qui est posée. S'il y a vraiment une question centrale dans Lost qu'on retrouve dans tous les épisodes, c'est la question de, lorsque j'écoute un récit, je fais confiance à la personne qui me le raconte. Est-ce que cette personne me le dit parce que c'est vrai, ou est-ce que cette personne me le dit parce qu'elle veut abuser de moi? Il y a un autre personnage qui est un personnage d'arnaqueur, c'est Sawyer. Lui aussi, il ne fonctionne qu'en créant des fictions. Qu'en créant des fictions pour arnaquer d'autres gens. Voilà. Et donc, ça devient véritablement le moteur des actions des personnages, mais ça devient aussi le moteur global de la fiction, dans le sens où Damon Lindelof et le showrunner de Lost est lui-même happé dans une fiction qui ne lui appartient pas, qui est la fiction que lui a plus ou moins imposé J.J. Abrams au moment où il crée Lost et où il lui confie le pilote, et où il doit aller ensuite chercher Carlton Kuss pour l'aider à la constituer. Mais il est plongé dans la nécessité d'expliquer des mystères qu'il n'a lui-même pas non plus créés, mais qu'il va s'approprier pendant 6 saisons. Hein. Si je résume, parce que peut-être c'est pas très clair pour l'auditeur, la série Lost, à la base, c'est un pilote qui est écrit par Abrams et qui prend pour l'aider à écrire ce pilote un très très jeune scénariste, Damon Lindelof. Mais Damon Lindelof est plus ou moins l'exécutant des volontés d'Abraham sur le pilote. Après le pilote, Abraham se casse, ne reviendra plus jamais dans Lost, confie tout à Lindelof. Et dès le pilote, on a les gros mystères de Lost, l'île, pourquoi sont-ils là, le monstre, etc., etc. Et il doit se débrouiller avec ça. Par rapport à ça, il va devoir expliquer les mystères vis-à-vis desquels il doit faire confiance à la personne qui les lui a confiés, que ces mystères veulent vraiment dire quelque chose. Voilà.
Donc oui, il y a bien le moteur global de la fiction, voilà, autour de confiance, arnaque et fiction et mystère de la fiction, et en même temps, ça touche son scénariste principal. Mmh. Alors on va aborder la question du fonctionnement du mystère, parce que c'est ça qui... C'est la raison principale de Lost, c'est le fonctionnement du mystère dans Lost. Vous écrivez « Nous l'avons toujours su, nous ne voulions pas le voir, mais nous l'avons toujours su. À force de voir les mêmes images, celles-ci ont fini par déterminer notre vision simplifiée. » Et un peu plus loin, vous parlez de « Cette fréquentation des images énigmatiques forme également la base de l'investigation paranoïaque. » Alors là, j'aimerais revenir sur la réception de Lost par le spectateur. Le téléspectateur ne doit-il pas obligatoirement, du coup, mener sa propre investigation paranoïaque ?
Bien sûr que si. C'est-à-dire que le lien, Lost n'est pas le premier à le faire. On a ça chez Brian De Palma, on a ça chez Coppola, on a ça chez Antonioni, encore une fois, en amont, via Blow Up. Le lien entre création d'un monde de l'âme ou création, entrée dans pénétration d'un monde d'images, comme savent le faire les enfants, Alice qui passe de l'autre côté du miroir, Philémon qui traverse des objets pour atteindre des lettres de l'océan Atlantique dans la bande dessinée de Fred, le lien entre ça et la question de l'investigation paranoïaque, ou en tout cas du conspirationnisme, est évident. C'est-à-dire qu'on est face à des éléments auxquels on va devoir donner du sens, et donc on va devoir constituer soi-même la réalité auquel ça correspond. Et ça, dans Lost, c'est aussi un moteur très important. Je vais rappeler un événement qui structure toute la saison 4, qui est une question qui est posée par les personnages en permanence et auquel on ne donnera de réponse que dans le milieu de la saison 5, quand grosso modo, ça n'aura plus aucune valeur. C'est la question de savoir qui a placé au fond de la mer une réplique de l'avion océanique 815 rempli de cadavres. Cette question-là, qui est une question qui est tout à fait terrifiante à la base, c'est-à-dire que, grosso modo, pour rappeler à l'auditeur, Lost raconte l'histoire d'un crash d'avion, l'avion océanique 815. Il se trouve qu'un peu plus tard, les rejoint sur l'île un groupe de scientifiques accompagnés de mercenaires sur un espèce de petit bateau qui est plutôt un bateau pour transporter des marchandises. Et on leur dit, l'avion en question a été retrouvé et il n'y avait strictement aucun survivant. L'avion a été retrouvé, je crois, à côté d'une île une île type Malaisie, je ne sais plus exactement où sur le globe. Et la question que se posent ces personnages, parce qu'ils ont les deux versions simultanées, c'est est-ce que c'est Ben, le chef des autres, qui l'a placé, ou est-ce que c'est son ennemi, Charles Widmore. La manière dont ça fonctionne, c'est que c'est un système permanent d'aller-retour, où finalement, cet événement qui structure la saison ne trouve pas sa réponse, mais on renvoie toujours au personnage qui croit à une des deux hypothèses, qu'il est un paranoïaque, ou qu'il épouse une vision complotiste du récit. On renvoie même, à un moment, un personnage dit « Vous êtes comme ces fous qui croient qu'on n'a jamais atterri sur la Lune. » Donc ça joue vraiment avec l'idée du spectateur conspirationniste ou paranoïaque. Et le moment où on donne la solution, c'est un des personnages qui est un amnésique, au milieu de la saison 5, et c'est l'auteur du méfait, Charles Widmore, qui le dit, très très rapidement. Et quand l'autre lui demande pourquoi il dit ça, il dit parce que vous l'aurez oublié dans 30 secondes. Mais c'est un moment où ça ne sert plus du tout l'intrigue. Ce qui est important dans l'intrigue, c'est que le spectateur lui-même soit plus qu'agacé, soit insupporté, devienne fou ou trouve insupportable le fait que les réponses ne lui soient jamais données. Donc quand on dit que c'est un problème que Lost n'ait jamais donné de réponse, en tout cas c'est aussi un moteur dans Lost que de ne jamais donner les réponses, en tout cas au moment où il les faudrait. Attendre toujours le moment où on n'en veut plus pour les livrer, pour que le temps où les questions soient posées, où le spectateur soit d'autant plus investi dans l'expérience de la fiction, qu'il est tout le temps obligé de constituer ses tenants et ses aboutissants, qu'il est obligé de faire un pari par rapport au personnage sur qui a fait quoi, et que ce pari-là est dur, très très longtemps, qui détermine finalement toutes ses actions et tous ses choix, et qu'il ne puisse finalement, vis-à-vis de ça, qu'évaluer la pertinence de son choix par rapport aux effets que ça produit sur les personnages. C'est-à-dire que dans Lost, les personnages qui sont dans la vérité, on ne leur dit jamais. Simplement, le spectateur peut le sentir parce qu'il on va dire qu'ils épiphanisent plus de lumière. À chaque fois qu'un personnage a... Pour toutes les questions qui sont laissées sans réponse dans Lost, la seule manière que le spectateur peut avoir de répondre, c'est de voir comment finalement assume... comment les personnages les assument en tant que vérité. Et c'est finalement la seule solution que Lost propose, même à l'énigme du monde ou aux fictions dans lesquelles un spectateur est plongé, et dans le reste de sa vie, à savoir même par rapport aux événements historiques qui peuvent être évalués comme des combats de fiction contre fiction. En tout cas, toutes les thèses historiques récentes, pas celles qui sont vérifiées par l'histoire, mais on va dire tout ce qui va de l'assassinat de Kennedy au 11 septembre et compagnie, peuvent être considérées comme des hypothèses contradictoires ayant chacune structure de fiction vis-à-vis duquel un lecteur, un spectateur, un homme informé, entre guillemets, va devoir choisir. Et le choix qu'il va faire vis-à-vis de ça, la seule manière qu'il pourra avoir de l'évaluer sera la façon dont cela résonne dans le reste de sa vie. Est-ce que ça prend sens ou est-ce que ça prend pas sens?
Et là, on revient à une investigation paranoïaque.
Absolument.
Presque aussi. Alors, pour terminer avec ce mystère que vous appelez presque à un moment donné ce grand mystère, je vous cite, vous dites, et on revient à Henry James et on en termine avec ça, ce grand mystère, c'est, à l'instar des fictions d'Henry James, l'impossibilité d'accéder à une quelconque information fiable sur les tenants et les aboutissants du récit tout le long de celui-ci. Alors, là maintenant, on en vient du coup à cette impossibilité de conclure, à cette impossibilité d'être définitif. Vous écrivez que Lost est une exploration de la demande de conclusion propre à tout spectateur regardant une fiction et une méditation sur les conséquences possibles de l'absence de conclusion.
Oui. Et vous voulez que je conclue là-dessus?
Ah non, du tout, non, j'ai plein d'autres questions à vous poser, pas comme tellement, j'ai plein d'autres questions. Non, on conclut pas l'interview, okay. Mais voilà, on en arrive, il y a un mystère, là. Et on en arrive à... Mais en fait, il n'y a pas de conclusion. C'est impossible d'être définitif.
La conclusion n'est jamais dans l'œuvre. La conclusion est dans la vie de la personne qui la reçoit. S'il veut une conclusion, bien sûr qu'il peut aussi décider de ne pas choisir. simplement, dans Lost en tout cas, ce qui est montré aussi, c'est qu'il ne peut pas ne pas choisir. Il ne peut pas choisir. Il ne peut pas ne pas choisir, non, autant pour moi. J'ai dit les trois. J'ai dit les deux, les trois. Mon Dieu. Bon, j'essaie de me reprendre. Et dans Lost, le spectateur est à un moment ou un autre sommé de choisir. C'est ce qui se passe dans la saison 6, lorsque le frère de Jacob montre les différentes possibilités au personnage de Sawyer, et grosso modo lui dit, soit tu suis Jacob, soit tu décides de ne pas choisir. Et donc, t'es une espèce d'élément dispensable, tu crèveras, quoi. Ou soit tu me crois moi, et dans ces cas-là, tu quittes la fiction. Donc, la fiction, pour pouvoir exister, demande une foi en sa capacité à répondre, alors qu'elle ne répond jamais. C'est ça, un peu, le problème. Mais c'est là où la fiction, finalement, touche la question de la métaphysique, ou la question de la divinité. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce qu'une fiction demande, c'est d'être cru sur parole, sans vérification possible. Mais le lecteur ou le spectateur de la fiction, lui, va intégrer cette fiction, va intégrer quasiment comme grosso modo va s'en sentir transsubstantué. Je ne sais pas si j'ai bien articulé le mot. C'est l'expérience de la transsubstantiation. Alors, grosso modo, il va l'avaler, il va s'en sentir, il va en être totalement régénéré, transformé. Si on lit Dostoïevski, par exemple, ou si on lit Joyce, ou si on lit Proust, quand c'est des lectures comme celle-là, des lectures gigantesques, grandes, quasi baroques dans leur forme ou dans leurs effets, on en sort nécessairement totalement transformé. Et on a l'impression même d'analyser entièrement sa vie par rapport à ce qu'on a pu lire. On a l'impression d'un système de résonance permanent entre la vie et la fiction. Si la fiction est suffisamment forte, elle est capable de répondre à la force de la vie. Donc du coup, les réponses qu'on ne trouve pas dans la fiction, on va les trouver dans la vie. La fiction elle-même va se charger de nous poser encore plus des questions sur la vie. Si on n'a pas cette question par rapport à notre propre existence, les fictions vont nous en poser encore beaucoup plus. Et on ne cessera de devoir aller trouver dans notre expérience de la vie des réponses à ces questions. Mais d'une certaine façon, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de conclusion, c'est que la conclusion, on doit la faire nous-mêmes.
Et c'est ce que vous écrivez pour décrire le sentiment du téléspectateur. Je vous cite, « Ils ont beaucoup exigé de Lost en échange du temps passé à en regarder les épisodes. » Ils ne se sont pas demandé si Lost, en retour, pouvait exiger quelque chose d'eux en échange du temps passé à les écrire et à les réaliser.
Ouais.
C'est beau, ça, cette phrase. Enfin, cette idée est magnifique. Ils se sont pas demandé si Lost, en retour, pouvait exiger quelque chose d'eux.
Oui.
C'est incroyable, cette idée.
Que les auteurs d'une fiction peuvent aussi demander quelque chose de leur lecteur, peuvent exiger quelque chose de leur lecteur. Ou de leur spectateur ?
Oui.
Je ne sais pas. Lorsque vous lisez un auteur que vous admirez beaucoup, vous essayez d'en être digne, d'une certaine façon. Vous vous sentez, d'une certaine façon, appelé à devoir fournir un effort également. Parce que c'est juste un travail gigantesque qui a été fourni. Un travail gigantesque, un travail beaucoup plus grand encore que celui du lecteur ou celui du spectateur. La personne qui évidemment a écrit, si on pense à Joyce qui écrit Ulysse, le temps qu'il passe à écrire Ulysse est infiniment plus long, plus chargé, plus complexe, plus délicat que le temps le lecteur, même un roman aussi long que ça et compliqué, va passer. Simplement, quand on voit l'exigence qu'il a mis dedans et surtout la patience qu'il a eu pour disséminer toutes ces micro-énigmes qui finiront par prendre du sens pour le lecteur, toute la thématique du renard qui traverse Ulysse, le renard qui enterre sa grand-mère dans un buisson de houx, les retours de fantômes, le fantôme de la mère, mais le fantôme de Shakespeare, les lignes qui sont créées par l'espèce d'observateur quasiment pré-fringe, quoi, qui est l'homme au Macintosh, qui est toujours présent dans le fond des scènes, en train de regarder les personnages agir, qu'à un moment ils croisent, ils disent « Tiens, il y a un mec au Macintosh derrière moi ». En fait, les personnages d'Ulysse sont épiés, ils sont suivis à la trace, et ça c'est quelque chose dont on se rend compte au bout de plusieurs lectures, ou alors parce qu'on a eu une édition avec des notes où ils nous font remarquer, mais c'est des espèces de petits détails que l'auteur met avec une espèce d'énorme attention, et lorsqu'on les remarque, ils vous font frissonner. C'est un apport gigantesque. Donc du coup, par rapport à ça, le lecteur ou le spectateur d'un film ou d'une série, lui aussi, doit faire un travail pour aller le retrouver. C'est comme, je crois que c'est Nabokov, je dis peut-être des bêtises, qui présentait le lecteur et l'écrivain comme gravissant chacun un côté de la montagne et devant se retrouver au sommet. Et il trime, et arrivé en haut, l'un et l'autre se serrent la main. Et c'est le prélude à une sorte de véritable amitié. Il y a un élément comme ça dans Lost aussi, c'est-à-dire qu'on sent de la part des scénaristes un tel soin, un tel souci de développer les énigmes les plus raffinées possibles, d'injecter dans des micro-détails tant de sens, tant de cohérence, tant d'attention et tant d'originalité. Quand on voit à côté ce que peuvent faire par exemple des fictions françaises, n'importe quel type de fiction française télévisuelle aujourd'hui, bon, je les connais pas toutes, hein. Il y en a peut-être des très bien, j'en sais rien, mais toutes celles que j'ai vues qui sont pathétiques, on se dit les types ne travaillent pas. Donc là, on peut pas, vis-à-vis du temps d'un spectateur par rapport à, on va dire, 40 minutes de film, le temps de travail qui a été mis dans ces 40 minutes du film est évaluable. Et potentiellement présent à l'intérieur de cette expérience-là et nécessite du coup un regard différent. C'est-à-dire que ça peut être que 40 minutes, mais le degré d'intensité du spectateur doit être différent.
Alors je vais prendre un exemple, parce que vous en citez un d'exemple, entre ce lien du coup entre littérature et oui. qui apparaît dans Lost. Vous écrivez « Dans Lost, les livres cachent des films
ouais. ».
Le film d'orientation de The Swan est caché derrière le tour d'écrou, donc d'Henry James, et sa partie manquante réside dans une Bible.
Oui.
Les deux livres évoquant le difficile partage entre confiance et tromperie qui marque chaque événement symbolique vécu par les personnages, ainsi que l'alliance réalisée dans cette fiction populaire entre écriture sacrée et narration moderne. Mais j'avais presque envie de vous... Parce que je connais assez... Enfin, j'ai vu la série, mais je connais assez mal les scénaristes. Les scénaristes ont vraiment volontairement semé tous ces petits détails, là, presque littéraires, avec Henry James.
Il dit, en tout cas. Vous savez, tout ce qu'on peut déceler des intentions d'un auteur, c'est ce qu'il a laissé dans son œuvre. Après, ce qu'il va raconter dans une interview, c'est souvent du pipeau. C'est pas du pipeau, mais il se souvient pas. On peut jamais recréer les conditions du moment de création. C'est illusoire. Donc on saura jamais la question de l'intentionnalité propre. Il se trouve qu'ils y sont. Il se trouve qu'il y a le film de la station The Swan de la Dharma Initiative est caché derrière le tour d'écrou. Et ça c'est répété à deux reprises. C'est répété. C'est dit par Desmond quand les autres lui demandent d'expliquer le sens de cette station. Il dit aller chercher derrière le tour d'écrou. Le film d'orientation de la Dharma Initiative, et c'est redit dans le flashback de Desmond lorsque lui-même découvre la station et qu'il y a une espèce de mec de la Dharma, je sais pas comment il s'appelle, Kelvin, je crois, un mec qui s'appelle Imam, ouais, qui lui dit va chercher derrière le tour d'écrou, blabla. Donc c'est volontaire que ce soit le tour d'écrou, enfin en tout cas le tour d'écrou est cité. Est-ce qu'ils l'ont pris par hasard? Rien ne nous le dit le contraire. La partie manquante du film cachée dans une Bible, est-ce que c'est par hasard? Rien ne nous le dit le contraire non plus. Il se trouve que dans Lost, ce qui est très beau avec Lost, c'est que tout ce qui apparaît comme étant de l'ordre du sacré a également une forme de type fiction, et tout ce qui apparaît comme de l'ordre de la fiction répond au sacré. Et ce que ça nous dit aussi, c'est quel est le roman des deux? Est-ce que le roman c'est la Bible ou est-ce que le roman c'est le tour d'écrou? Est-ce que le texte sacré, c'est la Bible, ou est-ce que le texte sacré, c'est le tour d'écrou? Et comment on départage les deux? Parce qu'il y a un autre roman aussi qui est cité dans Lost, l'épopée de Gilgamesh. Est-ce que Gilgamesh, c'est un texte sacré, ou est-ce que c'est un roman? On peut se poser la question sur beaucoup de textes, d'ailleurs. À partir du moment où ils sont anonymes, on a tendance à... On leur accorde beaucoup plus la trace de la divinité. Mais si on lit Rumi, par exemple, on peut dire que c'est Dieu qui parle à travers Rumi. Ça dérange personne. Ou Ibn Arabi, aussi, on pourrait dire ça. Donc on ne sait pas très bien. Et quand on lit la Bible, on peut se dire, bon, bah, c'est vraiment des bons romanciers. Enfin, il y a des longueurs, mais c'est prenant malgré tout. Et Et ce difficile partage, c'est un des moteurs de Lost, mais c'est pas que un moteur que de Lost. Simplement, Lost le met à sa manière très bien en valeur. Pourquoi ? Enfin, pour moi, en tout cas, il le met très bien en valeur. Aussi parce que c'est une fiction contemporaine, et que sur toutes ces questions-là, il y a toujours besoin d'un regard contemporain. Ça, c'est quelque chose que nous apprennent aussi les textes sacrés. C'est-à-dire qu'un texte sacré comme celui de Sora Vardi, l'auteur de Récits de l'exil occidental ou du livre de la sagesse orientale, Sora Vardi explique à chaque fois, il faut toujours réécrire le même récit qui est le récit de l'initiation, le récit du voyage de l'homme vers l'Orient, vers son ange et finalement vers la divinité. Il faut toujours le réécrire parce qu'à chaque fois pour pouvoir retourner dans cet endroit, il faut chaque fois rentrer par une porte différente. On peut jamais rentrer deux fois par la même porte. Et ça, ce qui est curieux, c'est que c'est exactement le même moteur narratif qu'on retrouve dans Philémon de Fred, la bande dessinée. Dans Philémon de Fred, pour retourner sur les lettres du A, il faut toujours trouver une porte différente, un objet différent. Et chez Fred, c'est un moteur narratif particulier, c'est-à-dire que à chaque fois, c'est un embrayeur de fiction. Mais on pourrait dire l'embrayeur de fiction, c'est aussi la condition de l'initiation dans les textes sacrés. Et cet aller-retour qui, d'une certaine façon, justifie qu'on écrive toujours de nouveaux textes, qu'on fasse toujours de nouveaux films, grosso modo, que le livre des révélations ne soit pas close. De l'autre côté, c'est ce qui fait que à chaque fois qu'on crée une œuvre d'art, elle a aussi valeur de témoignage immémorial par rapport à un chemin que l'homme doit faire jusqu'à sa transcendance. Donc et pour que ce chemin de l'homme vers sa transcendance soit bon, il faut que la fiction soit vraiment très 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 pointue et perverse, retorse. Avec des mindfucks et avec des renversements de perspective et avec des vrais systèmes d'illusion. C'est la question, encore une fois, de la question de la tromperie et de la confiance, et la question de l'illusion et de la foi. C'est-à-dire que toute épreuve de foi est également et avant tout un jeu sur la question de l'illusion, comme tout jeu sur la question de l'illusion, tout tour de magie doit avoir l'air d'une expérience surnaturelle, mais toute expérience surnaturelle doit avoir l'air d'un tour de magie. Illusionniste, j'entends par magie à ce moment-là, évidemment.
Eh bien, merci.
Prestidigitation.
Oui, de prestidigitation. Eh bien, merci beaucoup, Paco M'Tielman.